Allô tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du balado « Ma santé pour la vie ». Je suis votre hôte, Eugénie Francoeur, coach santé certifiée. Je suis contente de vous retrouver. Si vous vous demandez qu'est-ce que ça fait dans la vie une coach santé, je vous l'explique simplement à partir d'un exemple. C'est une question que je me fais tout le temps poser. Si vous allez voir une coach de tennis, c'est pour apprendre à mieux jouer au tennis. Elle va d'abord vous demander si vous avez déjà joué, si oui, à quel niveau. Elle va vous regarder jouer maintenant et va vouloir connaître vos objectifs à court, à moyen et à long terme. Avez-vous envie d'être une joueuse du dimanche, de faire partie d'une ligue amateur, de devenir une pro ou juste de vous amuser? À partir de là, vous allez ensemble développer un plan adapté à vos besoins pour développer votre jeu selon vos objectifs. Comme coach santé, la démarche est la même, mais on remplace le tennis par la santé. Dans un premier temps, je vous pose plein de questions pour connaître votre historique de santé. Avez-vous souvent été malade ou avez-vous plutôt une santé de fer? Ensuite, on regarde où vous en êtes maintenant, les routines que vous faites déjà. Et puis, on détermine vos besoins et vos objectifs. Avez-vous envie de mieux dormir la nuit et de mieux gérer votre stress ou peut-être de diminuer vos symptômes de ménopause afin de retrouver une qualité de vie ou de devenir une centenaire pleine de vitalité et de projets? Et sachez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui compte, c'est votre objectif et vos besoins. Et à partir de là, ensemble, on détermine un plan qui est aligné sur votre vision de la santé. Et je vous accompagne un petit pas à la fois. Je vous aide à optimiser votre santé, peu importe l'état dans lequel vous vous trouvez maintenant. Eh bien oui, il y a toujours quelque chose à faire. Si vous pensez avoir besoin d'un petit ou d'un grand coup de pouce, envoyez-moi un mot. Vous trouverez mes coordonnées sur les notes de cet épisode ou à partir de mon site web eugeniefrancoeur.com. Mais revenons à notre balado. Mon but à travers mes balados, c'est de vous donner envie de prendre soin de vous afin que vous puissiez vieillir en santé, en beauté et en vitalité. Notre épisode d'aujourd'hui est pour vous, mesdames, en ménopause et en préménopause, mais sachez, messieurs, que tout ce qui sera partagé est aussi vrai et valide pour vous. Mon invitée, et je suis pas mal contente de la retrouver, c'est mon amie et collègue Patricia Spanz. C'est vraiment un bonheur de la recevoir de nouveau. Elle était ma toute première invitée lorsque j'ai lancé mon balado à l'automne 2019. Aujourd'hui, elle revient pour nous parler des façons de prendre soin de sa mémoire à la ménopause. Patricia, c'est une coach mémoire et neuroplasticité et conseillère en alimentation fonctionnelle et naturopathe. Son slogan, que j'adore, est « L'art de mettre de la vie dans votre vie ». Patricia a été touchée de près par la maladie d'Alzheimer dans sa famille. Elle a été la toute première coach francophone à devenir praticienne certifiée dans le protocole Bredesen et programme WeCode en 2018, un programme avant-gardiste et prometteur pour stopper le déclin cognitif. Patricia est également certifiée maître coach et coach transformationnel par le Health Coach Institute des États-Unis et reconnue par la Fédération internationale des coachs et par l'Association canadienne de nutrition intégrative. Depuis 8 ans, elle a aidé et elle aide des centaines de personnes qui veulent investir dans leur santé et le soutien de leur mémoire. Le travail que Patricia fait pour aider les gens à conserver leur mémoire est colossal et super important. Pour moi, Patricia est une source d'inspiration et une référence en coaching santé. Aujourd'hui, elle nous partage des trucs simples et concrets pour prendre soin de votre précieuse mémoire. Bonne écoute! Bonjour Patricia, je te remercie d'avoir réaccepté mon invitation puisque tu es la première personne que j'invite 2 fois sur mon podcast. La première fois pour nous parler de santé cognitive et aujourd'hui tu viens nous parler de mémoire et de ménopause.
Oui, merci Eugénie, effectivement ça fait un petit moment qu'on s'était parlé, mais c'est une entrevue que je sais que mes clients revoient régulièrement puis que j'ai toujours eu des bons commentaires. Donc, merci de ta deuxième invitation.
Oui, aujourd'hui, bon, on est toutes les deux maintenant dans notre vie de coach à temps plein. Toi, tu es une coach mémoire, moi, je suis une coach ménopause. Alors, je me suis dit que ce serait vraiment un mariage parfait parce qu'un des problèmes qui arrive, un des nombreux symptômes illimités de la ménopause et de la préménopause, c'est qu'on commence à avoir des trous de mémoire. Alors, ma première question, avant de parler qu'est-ce qu'on fait avec les trous de mémoire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir des trous de mémoire de ce rendre-là?
Oui, ça, c'est ma question préférée, hein, Eugénie, parce que tu sais que la prévention, c'est beaucoup plus efficace, hein, que d'attendre d'avoir une problématique, surtout dans toutes les sphères, mais particulièrement dans la mémoire. On sait beaucoup mieux comment prévenir que, hein, on le sait, une fois qu'on a des diagnostics au niveau de la mémoire, on rentre dans une autre sphère complètement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a évidemment plein de choses qu'on peut faire. Puis, tu sais, ça revient toujours à l'hygiène de vie, puis à différentes petites actions. Tout est interrelié. Donc, on veut vraiment travailler sur l'ensemble du mode de vie, faire des petites actions pour prévenir la mémoire. L'élément peut-être clé de tout ça, c'est qu'on entend constamment, encore aujourd'hui, il n'y a rien à faire alors que c'est faux. Ces petites actions-là, bout en bout, font une différence.
Merci de le dire. Merci de répéter le même message parce que je le dis souvent. Moi, c'est pas une sentence à mort, là. Tu sais, c'est comme il y a des choses qu'on peut faire. On est responsable de la santé de nos gènes. La science prouve maintenant que l'épigénétique, que l'environnement fait toute la différence. Fait que par où on commence dans cette panoplie possible d'habitudes de vie?
Fait que la première chose, je dirais, puis ça, au risque de me répéter, mais c'est tellement important que je vais le dire, la première chose, c'est juste d'être conscient que oui, ce que je fais a un impact sur ma mémoire et, comme tu disais, sur tout le reste. Là, évidemment, pas juste la mémoire, mais aujourd'hui, on parle spécifiquement de la mémoire, mais tout ce qu'on dit s'applique sur notre hygiène de vie et notre santé globale. Mais la première étape, c'est de dire oui, on peut faire des changements et c'est la somme des petites décisions dans une journée. On ne réalise pas, mais quand on commence à prendre conscience du nombre de petites décisions qu'on prend dans une journée qui peuvent être soit un plus ou un moins par rapport à notre mémoire, bien là, on voit que, tu sais, souvent on dit ah, ben, il n'y a pas tant de choses que ça, mais quand on commence à le regarder comme ça avec toutes les petites décisions, on voit qu'il y en a une panoplie.
Donc, nous donne des exemples.
Oui, c'est ça. Hein, là, tu veux que je donne des exemples? En fait, on parle dans le fond de 7 grands axes sur lesquels on veut travailler. Donc, il y a évidemment l'alimentation, hein, sans surprise. Et au niveau de l'alimentation, mais qu'est-ce qu'on veut faire? On veut manger faible en glucides, donc peu de tout ce qui est sucre et dessert et tout ça, mais aussi moins de pain, pâtes, pommes de terre, riz. C'est pas juste, tu sais, les gens vont dire « Ah, moi, je mange pas sucré, je mange pas de dessert », mais c'est pas que ça.
C'est quoi l'impact des glucides sur la mémoire? On en parle souvent pour le taux de terre, pour la santé métabolique, mais sur la mémoire, c'est quoi le lien que tu fais?
En fait, j'ai organisé un événement récemment, puis j'ai interviewé Sophie Roland, qui l'a très, très bien expliqué, qui est auteur de plusieurs livres, qui est neuroscientifique, et qui disait, dans le fond, tu sais, on parle souvent que, exemple, la maladie d'Alzheimer, c'est un diabète type 3, puis elle disait, de plus en plus, on dit même pas ça, on dit juste que c'est un des nombreux effets d'un syndrome métabolique, la perte de mémoire. Donc, c'est même pas un à côté ou un autre problématique, ça serait juste comment le fait de manger beaucoup de glucides affecte le cerveau, mais ça contribue vraiment à faire décliner notre mémoire.
Donc, on réduit les glucides, évidemment, tout ce qui est sucre transformé, pain, pâte, patate, les PPP. Et est-ce qu'il y a d'autres choses dans les aliments auxquels il faut faire attention?
Ben oui, c'est certain. Puis tu sais, c'est sûr que dans une entrevue aujourd'hui, on peut donner des pistes pour ouvrir la discussion, mais pour faire un changement alimentaire, on s'entend que ça prend un accompagnement beaucoup plus soutenu.
Oui, nutritionniste.
Mais donc, les plus importants, c'est de réduire évidemment les glucides, mais aussi manger le moins transformé que possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, les gens disent, ça veut dire quoi, un aliment transformé? Ben, est-ce que ça pousse dans la nature comme ça, oui ou non? plus, tu sais, je trouverais pas, ma nièce, elle nous avait fait rire quand elle était petite, parce qu'à la garderie, il avait demandé qu'est-ce qu'elle, il faisait un jardin, tous les petits-enfants ensemble, puis il avait demandé qu'est-ce qu'elle voulait faire pousser dans le jardin, puis elle, elle voulait faire pousser un pâté chinois.
Trop chiant.
Donc, un pâté chinois, ça reste, un, bon, là, c'est préparé, mais un aliment transformé ou non transformé, bien, ça pousse dans, dans un jardin. Puis manger, évidemment, plus de légumes en priorité, tout ce qui est feuilles vertes.
OK. Oui, les feuilles vertes, j'en parle souvent à ma communauté, moi, l'importance. Betacarbe, les grandes laitues vertes, lequel et autres. OK. Dans les gras, maintenant, notre cerveau a besoin de bons gras. Qu'est-ce qu'on devrait prioriser pour notre mémoire?
Oui, c'est sûr que le gras, c'est un gros sujet. T'sais, on a diabolisé les gras pendant nombreuses années, puis tristement, on a remplacé ça par les sucres, puis là, on se rend compte que, oups, on n'a peut-être pas fait une si bonne chose que ça quand on regarde, si on a juste à regarder l'obésité et tout ça dans les dernières décennies. Mais on a mis tous les gras dans le même panier. T'sais, on a dit qu'il faut éviter tous les gras plutôt que dire les gras, c'est comme tout le reste. Il y a des bons gras, il y a des mauvais gras. On veut privilégier des bons gras. Fait que c'est quoi des bons gras? Ça peut être de l'huile d'avocat, ça peut être un demi-avocat, évidemment tout ce qui est noix. Chacune des noix a différents bénéfices pour le cerveau. Donc, si je varie les noix, c'est super intéressant. Il y a le ghee ou le beurre clarifié que moi, j'utilise, que j'adore. En médecine ayurvédique, on parle de que le ghee, ça serait le pour en médecine ayurvédique, ça serait comme le la panacée. Le ghee, j'ai longtemps résisté à l'utiliser parce que si on l'achète tout fait, c'est très, très cher. Mais récemment, j'ai appris dans un projet que je fais de cuisine avec un chef cuisinier, avec Stéphane Tribali, j'ai appris que finalement, faire du ghee, c'est très facile.
C'est
je le fais.
Facile. Oui! Oui, j'ai une amie indienne qui m'avait montré à faire mon ghee il y a longtemps. C'est vraiment facile.
Tout à fait. Fait que ça, une fois qu'on découvre comment faire le ghee, c'est ultra facile après. Donc, c'est super intéressant à utiliser. Ça peut être le lait de coco, le gras de coco. Excuse-moi, le mot m'échappe. Mais à partir de coconut, tout ce qui est coconut, ça peut être intéressant aussi.
OK. Les poissons gras.
Oui. Oui, au niveau de l'alimentation, oui, évidemment, les poissons gras, ça serait à manger à toutes les semaines, idéalement.
Donc là, tu parles d'alimentation. Est-ce que l'hydratation a aussi un lien sur la mémoire?
Oui, tout à fait. Hein, c'est vraiment la somme de tout, mais environ, on dirait qu'à peu près 80% des gens sont chroniquement déshydratés. Puis notre Oui. Bon, c'est une statistique comme ça, j'ai pas testé, mais je peux vous dire que dans moi, tu sais, moi, j'ai accompagné plusieurs centaines de personnes à travers une démarche de transformation pour la mémoire. Puis l'hydratation, je peux les compter sur le doigt d'une main, sur les doigts d'une main, le nombre de personnes qui n'ont pas un défi d'hydratation. C'est très, très rare. Et notre cerveau est composé, là, juste comme ça, je ne m'en souviens pas par cœur, mais c'est ça. C'est environ 85 à 90 d'eau. Et donc, si je bois pas assez d'eau pendant des décennies, imaginez qu'est-ce que ça fait. Le cerveau, il littéralement se dessèche et ça peut juste ça être assez pour occasionner des trous de mémoire.
Donc, ton premier point, tu as parlé de 7 piliers. Le deuxième, on arrive à?
L'exercice physique. Hein? Encore un incontournable quand on veut, dans n'importe quelle sphère au niveau d'hygiène de vie, de bouger, c'est fondamental. Et bouger, oui, on dit, tu sais, le cardio, c'est bien, ça oxygène le cerveau, et ainsi de suite. La musculation, c'est bon parce que les muscles transforment le glucose, fait que ça aide quand on a justement une problématique de glucides et tout ça. Mais le plus important, c'est de bouger et de varier les types d'exercices parce que chaque type d'exercice a un bénéfice. Contrairement à ce qu'on pense, tu sais, avant, on disait, ça prend tel type d'exercice. Non. L'idéal, c'est vraiment autant de faire du yoga, de l'étirement, du cardio, de vraiment...
La musculation. Ben. OK, ouais. Parfait, exercice. Évidemment, d'y aller aussi, parce que l'exercice, c'est super important d'en faire, puis pousser sa limite. Et inversement, trop en faire, quand on est à ménopause ou en préménopause, c'est pas nécessairement une bonne idée.
Non, parce que l'exercice physique, on réalise pas, mais ça peut vraiment être une source de stress. Donc, quand je fais un exercice intense, c'est un stress pour le corps. C'est correct, ça habitue le corps à s'adapter, mais si je suis déjà stressée par ailleurs, ben peut-être que je vais avoir plus de bénéfices à faire du yoga, par exemple.
OK, parfait. Notre troisième pilier, on tombe dans quoi?
Eh bien, il y a le sommeil.
sommeil, oui. Hein? Je parle souvent à ma communauté du sommeil.
Oui, puis on le sait tous, hein, quand on est en ménopause, préménopause, le sommeil, ça devient un peu un défi dans bien des cas, mais c'est un pilier de base, on le sait tous. Là, quand on a mal dormi, on est tous pareils. Le lendemain, on est confus, on est fatigué, on a de la misère à faire des liens, on se concentre plus difficilement.
On cherche nos mots.
On cherche nos mots. Fait que, tu sais, on n'a pas besoin de... Tu sais, c'est assez logique que le sommeil, c'est un incontournable pour la mémoire. Encore plus, tu sais, il y a plein de choses qui se passent durant la nuit, puis c'est pas le but d'aujourd'hui, mais deux choses vraiment importantes en lien avec les mémoires. La première, c'est que le corps, le cerveau se détoxifie la nuit, se nettoie. Donc, le cerveau a une fonction auto-nettoyante, mais elle s'active la nuit, principalement, de 10 à 20 fois plus que le jour. Elle est plus efficace. Donc, on veut cette fonction auto-nettoyante la nuit. Si je dors pas, je m'en prive. Et aussi, au niveau des souvenirs, c'est la nuit que mes souvenirs passent du court terme vers la mémoire à long terme. Donc, si je passe une nuit blanche, ce qui s'est passé dans la journée ou ce que j'ai appris, ce que j'ai fait durant la journée, mettons que j'ai appris quelque chose de nouveau, va avoir beaucoup plus de difficultés à aller vers ma mémoire à long terme.
Donc, ouais, c'est intéressant, ça. C'est important ce que tu es en train de nous dire là. Donc, la fonction auto-nettoyante, comme sur notre four... L'autophagie, c'est la nuit que ça s'active. On a besoin de dormir pour que ça s'active. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on apprend. Si on veut l'enregistrer sur notre disque dur, il faut dormir.
Ben oui, puis aussi, donc on l'enregistre, mais aussi, il y a deux choses, il enregistre, mais aussi, il fait la sélection, il supprime aussi, hein, un peu comme un disque dur d'ordinateur, on veut supprimer, sinon il n'y a plus de place dans la mémoire. Fait que la même chose, fait que la nuit, le cerveau, il regarde tout ce qui est arrivé dans la journée, puis il dit ça, je le supprime, ça, je le garde. Mais imaginez s'il n'y a jamais même de suppression, le cerveau vient surcharger, fait que ça devient difficile d'accéder aux informations que je veux vraiment accéder, parce qu'elles sont submergées à travers plein d'autres informations qui ont été stockées là, mais inutiles. Parce qu'on n'a pas fait le ménage.
OK, donc grand nettoyage. Donc ça me fait penser à l'état de mon ordinateur, du bureau de mon ordinateur.
Tout à fait, moi aussi. Okay.
Bon, alors, premièrement, l'alimentation, deuxième, l'exercice, troisième, le sommeil, le quatrième, c'est quoi?
Le quatrième, c'est la gestion du stress.
Oh! OK, comment on fait ça de la gestion du stress? Comment ça soutient la mémoire?
Ben, même principe que le sommeil, hein, quand je suis stressée, on a juste à passer à un étudiant qui arrive à un examen à la fin de son bac à l'université, il arrive devant la feuille d'examen, ça fait des années qu'il étudie, il connaît tout par cœur, il arrive devant l'examen puis c'est un blanc total, il oublie tout. Hein? Fait que stress et mémoire, on le sait tout de suite que c'est pas un bon ménage. Et même stress et apprentissage, c'est pas juste stress et ramener à la mémoire quelque chose qu'on veut, mais juste dans l'apprentissage. Quand je suis stressée, je suis déconcentrée, ce que j'apprends va avoir beaucoup plus de difficultés encore là à s'imprégner dans ma mémoire. Fait que c'est sûr que le stress, c'est un point super important. Et le stress, comme le sommeil, c'est deux, tu sais, je sais si je mange bien ou pas, bon, je peux avoir de l'éducation, mais tu sais, je vois ce qu'il y a dans mon assiette, l'exercice physique, j'en fais ou j'en fais pas, c'est beaucoup plus facile, mais le stress, le sommeil, c'est des choses qui sont plus invisibles, on s'en rend moins compte, à moins de se poser la question, souvent, on navigue notre journée et on ne se pose pas trop cette question-là.
Oui, et je suis souvent, parfois surprise aussi en coaching, où c'est évident que j'ai devant moi une femme qui est stressée, puis la femme me dit qu'elle n'est pas du tout stressée. Donc, d'entrer en lien avec son propre stress, comme pour le reste, c'est le premier pas pour essayer après ça de déstresser.
Oui, puis particulièrement avec le stress, parce que tu l'as très, très bien dit, là, on ne réalise pas qu'on est stressé et... On le réaliserait peut-être là, si on habitait sur le bord de la mer à quelque part, puis tout le monde était zen, puis nous, on arriverait avec notre niveau de stress. Mais on vit dans un monde où tout le monde est comme nous. Fait qu'on ça se noie dans la mer, fait qu'on réalise pas que...
On pense que c'est normal, oui. C'est quoi, toi, tes meilleures techniques pour gérer ton stress?
Bien, premièrement, tu l'as super bien dit, mais c'est la prise de conscience. Fait que déjà, de s'en rendre compte et de ralentir. Ça a été difficile pour moi parce que moi, j'étais, ben, comme beaucoup, là, j'étais beaucoup dans la performance, dans travailler fort, faire le plus efficace que possible. Donc, de ralentir, d'espacer mon agenda, de me laisser des moments à travers la journée. Des fois, c'est juste un 5 minutes, mais un 5 minutes pour juste ouvrir la porte, aller sur le balcon, puis respirer l'air frais. Ou méditer dans la minute de la journée, faire de la cohérence cardiaque, mais la connexion avec la nature, c'est vraiment tous ces mélanges-là, mais ça part du principe de prise de conscience puis de ralentir.
Puis de prise de conscience, ralentir, puis c'est ça, passer à l'action ou à la non-action dans ce cas-là, justement, d'être capable de ralentir. Et à la ménopause aussi, la gestion du stress, ça devient vraiment une priorité parce que déjà d'avoir les hormones en déséquilibre, en soi, ça crée un stress. Et ce que j'ai remarqué chez moi, puis chez plusieurs de mes clientes aussi, c'est que notre capacité à gérer le stress est beaucoup moins grande qu'autrefois.
Oui. Puis, tu sais, le cortisol, donc l'hormone du stress, la principale hormone qui est sécrétée quand on est stressé, ben, c'est une hormone. Fait que, qui dit ménopause dit déséquilibre hormonal. C'est ce qu'on essaie de rééquilibrer à travers. Moi, je travaille toujours avec le mode de vie. Je suis convaincue qu'avec le mode de vie, on peut faire des miracles beaucoup plus qu'on le pense. Mais c'est sûr que quand on est en état de stress, ça vient influencer tout le reste des sphères hormonales, donc de rendre notre ménopause beaucoup plus pénible. Enfin, pour dire très simplement, là, on pourrait évidemment élaborer, mais ouais.
Oui, parce que quand le cortisol est dans le tapis, ça veut dire que la mélatonine ne va pas très bien.
Entre autres. Puis tu sais, c'est pas. Entre autres.
Entre autres, oui.
Ouais.
OK. Donc, quatrième point, gestion du stress. Le cinquième, c'est.
L'entraînement du cerveau. Donc, c'est peut-être le point qui est le plus spécifique à la mémoire. Donc, un peu comme si je veux garder ma mobilité le plus longtemps que possible, ben, je vais aller faire de l'exercice physique. Puis, je vais faire de l'exercice physique quand je suis en forme. Je ne vais pas attendre d'avoir de la misère à marcher, d'avoir mal partout, puis de sentir que c'est difficile pour faire de l'exercice. Et non plus, je ne vais pas attendre d'être obèse pour faire de l'exercice. Je vais vouloir le faire quand ça va bien et ou dès que je vois qu'il y a des petits changements qui ne vont pas dans le sens que je veux, ben, je vais aller faire de l'exercice physique. Les mêmes principes s'appliquent au cerveau. Donc, évidemment, ce n'est pas un muscle, mais on pourrait le comparer. Donc, plus je le travaille différemment, exactement comme la variété qu'on parlait avec l'exercice physique, tu sais, je fais de la musculation, je fais des étirements, etc., ben, plus je travaille mon cerveau, mais pas toujours la même chose. Tu sais, les gens vont dire, ah, ben, je fais des sudoku depuis des années ou des mots croisés, c'est génial, mais ça travaille une fonction. Fait qu'on veut travailler différentes fonctions au niveau du cerveau pour vraiment qu'il reste actif et plus il est actif, plus je peux le préserver, mais même l'améliorer. J'ai plein de clients qui me disent, Patricia, je suis rendue à 70 ans, 50 ans, 60 ans, puis finalement, mon cerveau, j'ai jamais eu autant de facilité à travailler.
OK. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de différents types d'exercices pour le cerveau qu'il faut faire?
Oui, puis il y en a plein. C'est tout ce qu'on entend, faites des mots croisés, faites ci, faites ça, c'est tout vrai.
Apprendre une langue.
Apprendre une langue, tout ce qui est nouveau, qui est différent, plus je varie les choses, puis je fais des choses que je ne connais pas, changer de trajet. Il y a des milliers d'occasions dans une journée de se faire des petits défis, aller à l'épicerie, mais au lieu de lire ma liste sur mon téléphone, moi je la lis avant de rentrer dans l'épicerie, je range mon téléphone. Moi je la lis avant d'arriver à la caisse quand même, parce que ça me tente pas de retourner une deuxième fois si j'ai oublié quelque chose. Mais on peut se faire plein de défis comme ça, appeler des gens, signaler le numéro de téléphone comme dans le bon vieux temps.
Hey, c'est vrai, dans le temps, on connaissait les numéros de téléphone de tout le monde pendant des années. Je me souviens encore du numéro de téléphone de chez ma mère quand j'étais enfant. Mais aujourd'hui, on ne fait plus ça, se souvenir d'un numéro de téléphone.
Non. Fait que le téléphone intelligent, lui, est intelligent, mais il ne nous aide pas, nous.
Il nous rend pas intelligent. C'est la même chose avec le GPS. Hein? Avant, il fallait lire une carte, il fallait se retrouver, il fallait poser des questions. Là, on met le trajet sur notre téléphone, fait que notre mémoire est pas mal moins sollicitée.
Oui, c'est ça, mais tiens, c'est là que ça nous, en étant conscients, on peut faire des activités spécifiques pour la mémoire. Là. Il y en a plusieurs, il y a des livres qui sont super intéressants, il y a Cerveau actif, entre autres. Il y a des applications pour la mémoire qui sont très intéressantes. C'est un ajout super pertinent que moi, je considère qu'on peut tous ajouter, qu'il y a toujours sa valeur. Mais à même notre quotidien, il y a des milliers d'occasions, comme je disais, mais même le GPS, c'est un excellent exemple. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre le GPS, mais peut-être de le regarder d'avance, puis essayer de se rappeler des... c'est pendant qu'on conduit de ne pas se fier juste de manière passive au GPS, mais de se créer des points de repère, essayer de voir sur la route, OK, j'ai tourné ici, c'est quoi? D'essayer de se rappeler d'une fois à l'autre si c'est un nouveau trajet, bien, la deuxième fois, de le faire de mémoire. Donc, il y a toujours moyen, tout en utilisant la technologie, mais continuer à travailler notre cerveau en parallèle.
Travailler notre cerveau pour que ce ne soit pas juste le téléphone qui soit intelligent.
Oui, puis tu sais, si le téléphone n'a pas de batterie, il arrive quoi que ce soit. Hein?
Oui, non, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est pas mal dépendant de cette petite bête-là, c'est certain. OK. Est-ce que l'entraînement du cerveau, t'a donné plein d'exemples au quotidien de choses qu'on peut faire, mais est-ce qu'en dehors du quotidien, est-ce qu'on devrait se garder du temps par jour ou par semaine spécifiquement dédié à ça?
Oui, c'est pareil comme l'exercice physique pour moi. Oui, il y a plein de choses. T'sais, c'est sûr que quelqu'un qui travaille physiquement va avoir besoin de moins d'exercice que quelqu'un qui est assis à son bureau toute la journée, mais c'est toujours pertinent de se garder un moment où là, on va faire du sport spécifique pour travailler des éléments peut-être qu'on ne travaille pas dans notre quotidien par ailleurs, mais tous les mêmes principes s'appliquent au cerveau. Fait que généralement, on parle de 3 à 5 séances par semaine. Ça n'a pas besoin d'être très long, là, en 10, 15, 20 minutes. Pas plus que ça, parce qu'en fait, notre cerveau, il se fatigue plutôt que de devenir aidant. Si on le fait trop longtemps, ça a l'effet inverse. Ça augmente notre stress, puis ça a tout l'effet inverse. Et là, on peut utiliser des applications spécifiques pour entraîner le cerveau. Et moi, j'aime beaucoup faire ça. Bien évidemment, le matin, notre cerveau est plus réceptif. J'aime beaucoup faire la méditation avant. Fait qu'on apaise notre système nerveux. On baisse notre cortisol. On le disait tantôt, c'est plus facile d'apprendre. Fait que ça nous permet de... Tu sais, c'est un bon rituel à faire le matin 3 à 5 fois par semaine.
Ce qui nous amène à notre sixième point.
Donc, le sixième, c'est les carences. Donc, notre cerveau est le plus grand consommateur de la majorité de nos vitamines, minéraux, nutriments et tout ça. Donc, si je suis carencée à quelque part, c'est sûr qu'éventuellement, mon cerveau va en souffrir. Bien, ça dépend évidemment à quoi, mais donc, ça, c'est ce que vous faites avec votre médecin, tu sais, quand il va regarder les vitamines, vos taux de vitamine D, etc. Mais c'est important de prendre soin, de s'assurer qu'on n'est pas carencé. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, évidemment, tout l'aspect médical, mais juste dans notre quotidien, c'est le même principe. Tu sais, si on mange bien, on mange des feuilles vertes, mieux, plus qu'on mange varié, coloré, des légumes, mais plus on soutient
la santé de notre cerveau. Mm. Okay. Puis, tu sais, il y a ce qu'on mange aussi, mais s'assurer d'avoir des intestins en santé parce qu'on a beau manger la meilleure nourriture au monde, si nos intestins ne sont pas en état de l'absorber, de le digérer, ça ne sert pas à grand-chose. Notre santé intestinale, notre microbiote.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, il y a ce qu'on mange, puis il y a ce que notre corps absorbe, comme tu dis. Puis, il y a l'état dans lequel on est qui vient jouer, tu sais, qui est comme peut-être le point qui vient soutenir tout ça. C'est que, encore là, si je suis en état de stress, ni mes intestins, ni le reste de mon système digestif va fonctionner de manière optimale. Et donc, je me prive de toutes les nutriments, d'une grande proportion des nutriments que je suis en train de manger. Donc.
Et on digère tellement mieux, puis on absorbe tellement mieux quand on est relax.
Mm-hmm.
Oui. OK. Carence, donc, voir, vérifier avec votre médecin qui manque de rien. Et notre septième et dernier point, c'est quoi?
Le septième et dernier, on en a un petit peu parlé tantôt avec le sommeil, mais c'est peut-être le plus surprenant de toute la liste et c'est ce qu'on appelle les démentogènes. Donc, ce sont les produits qui sont toxiques, qui contribuent à faire décliner notre cerveau. Un peu comme on parle de produits cancérigènes, hein, on dit ça augmente notre risque de cancer, bien maintenant on parle de produits démentogènes, donc qui augmentent nos risques de perte de mémoire. Et évidemment, bien, qu'est-ce qu'on veut faire dans ce cas-là? C'est on veut réduire l'exposition à ces produits-là, un peu comme un produit cancérigène. On va essayer d'en avoir le moins possible dans notre quotidien. Et aussi, on va essayer de soutenir notre corps pour qu'il puisse se nettoyer. Et c'est pour ça qu'on parlait là, du sommeil et de la fonction auto-nettoyante qui s'active principalement durant la nuit, entre autres. Mais il y a plusieurs autres éléments.
Ça ressemble à quoi, des démentogènes? Est-ce que tu peux nous donner une petite liste ou des idées comment faire pour les reconnaître?
Tout à fait. Fait qu'il y en a beaucoup, hein, sans surprise. On est exposé de partout. Le but, c'est pas de partir en peur puis dire je veux rien dans mon quotidien. Même chose que les produits cancérigènes. Hein. Il y a personne qui dit ah ben là je veux plus rien faire parce que tout est cancérigène. C'est le même principe. Donc les produits les plus courants, c'est les produits nettoyants pour la maison. les surfaces avec lesquelles je cuisine. Donc, on essaie d'éviter les teffars et compagnie. Le plastique sous toutes ses formes, que ce soit dans la cuisine, que ce soit un rideau de douche, que ce soit une bouteille d'eau, un emballage qui touche à nos aliments, on essaie de réduire les plastiques.
Ça inclut les Tupperware?
Ouais, c'est sûr qu'il y a des qualités de plastique quand même, là. Un Tupperware, surtout les plus nouveaux, sont de meilleure qualité qu'un emballage unique, là, qui est fait pour une journée. Mais moi, tu sais, j'ai tous des pots en verre, par exemple. Donc, j'emballe tout dans des pots en verre, des genres de lock and lock, plutôt que du plastique, autant que possible. J'en fais pas de maladie, là. Si je vais acheter quelque chose à l'épicerie puis l'aliment est dans un pot en plastique, je vais l'acheter. Mais si j'ai un choix entre le plastique ou le verre, je vais prendre la compagnie qui le met dans le verre, c'est certain. Okay.
J'ai commencé à faire cette transition-là aussi parce que j'en avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de Tupperware. Puis tranquillement, pas vite, là, je suis en train de les remplacer. Les additifs colorants alimentaires, est-ce qu'ils rentrent dans cette catégorie-là?
Tout à fait. Tout à fait. Les additifs, les colorants, les cosmétiques, ce qu'on respire dans l'air, les produits. Tu sais, souvent, là, l'armoire où on a les vieilles peintures, la térébenthine et compagnie, faire le ménage de tout ça, garder juste l'essentiel, puis peut-être pas le laisser dans la cuisine, le laisser dans le garage où je suis moins exposée ou dans le cabanon, tu sais, ce que je peux. Que je vais pas respirer. Un élément qui surprend souvent les gens, c'est des bougies.
Même, OK, les bougies commerciales, mais les bougies faites à partir de cire de soya, est-ce que c'est correct ou pas celle-là?
Oui, c'est correct. Il faut vraiment que ça soit écrit non toxique. Généralement, c'est pas celle qui coûte 99 cents. Là, fait que faut vraiment que ça soit écrit à base de... Puis c'est la bougie elle-même, puis c'est aussi la mèche.
OK. Puis, je reviens à mes colorants puis mes additifs alimentaires parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Comment on fait pour les reconnaître? Ils commencent souvent par un E. Est-ce que c'est vrai pour tous ou il y a d'autres formes?
Bien, pour aller plus simple, dans le fond, on voudrait privilégier, puis rappelez-vous, au niveau de l'alimentation, manger le moins transformé que possible, on voudrait privilégier des ingrédients que notre grand-mère connaissait.
C'est un bon repère. Est-ce que ma grand-mère connaissait le E-170? Un mot aussi, j'aimerais ça que tu nous parles d'un enjeu qui est de plus en plus regardé dans le monde de la santé fonctionnelle, les glyphosates et compagnie. Ça, là aussi, ça a un impact sur la mémoire, je crois.
Ben en fait, tu sais, la complexité, la simplicité, tu sais, la mémoire, finalement, on se rend compte que le cerveau est rattaché à tout le reste, est influencé par tout le reste. Et c'est peut-être le dernier point. Dans le fond, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu des déséquilibres au niveau santé métabolique pendant un certain temps. Je peux avoir eu des toxines qui se sont accumulées, que ce soit le glyphosate ou le plastique ou la cigarette. Même le cortisol, c'est un dématogène. Tu sais, c'est
OK, quand il y en a trop.
Oui, quand il y en a trop. Et le cerveau, dans le fond, c'est comme peut-être la dernière barrière. C'est pour ça que c'est souvent plus tard en fin de vie que notre cerveau commence à décliner. C'est comme si la dernière étape, il est tributaire. Il faut que tout le reste fonctionne bien. Autrement dit, pour que le cerveau fonctionne bien, il fonctionne bien, peu importe, très longtemps. À un moment donné, quand il commence à décliner, c'est parce qu'il y a des différents équilibres à différents endroits, que ce soit les dématogènes, la sédentarité, l'alimentation. Évidemment, tout ça, c'est interrelié, comme vous avez pu le voir. Et quand je veux ramener un équilibre sur ma mémoire, et même, tu sais, moi-même, je suis en période de ménopause, préménopause, je suis en plein là-dedans, on veut ramener un équilibre pour retrouver notre santé cognitive. On n'a pas besoin d'attendre, comme on disait, d'être malade, mais juste aujourd'hui, comme je vous dis, j'ai des clients qui me disent, mon Dieu, Patricia, j'ai jamais eu autant de clarté mentale que j'ai aujourd'hui. Et c'est de changer un maximum d'éléments. Fait que le glyphosate, ça en fait partie, mais c'est tous les éléments qui en font partie. Fait que on veut rééquilibrer un maximum puis essayer de rester le plus proche de ce qui est dans la nature.
Au début de notre entretien, on a parlé, idéalement, quand c'est possible, de faire de la prévention. Donc, de faire tout ce qu'on peut faire, tout ce que tu as nommé pour éviter d'avoir des trous de mémoire, des problèmes de mémoire. Est-ce que... Mettons qu'on a attendu, là, tu sais, on a 56 ans, on dort plus, les hormones sont tout croche, on a des trous de mémoire, on n'a pas de concentration. Est-ce qu'il est trop tard ou est-ce que tu en as parlé un petit peu ou est-ce qu'on peut retrouver un peu plus de mémoire?
il n'est jamais trop tard. On peut toujours récupérer, mais c'est comme n'importe quoi. Tu sais, si mon poids idéal, c'est 130 livres, puis je suis à 135, ça va être plus facile de revenir à mon poids idéal que si je suis à 235, c'est certain. Mm-hmm. Fait que c'est le même principe. Plus je vais avoir des trous de mémoire fréquents, plus je vais avancer dans la situation, plus ça va être difficile de ramener ça vers ce que je veux. Mais peu importe, moi j'ai des gens qui sont venus me voir qui sont très, tu sais, qui avaient des gros trous de mémoire. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas revenu à comment ils étaient avant, mais chaque petit gain dans le quotidien a un effet sur notre vie de tous les jours, un effet positif.
Oui, puis les habitudes de vie, bon, tu dis la même chose à tes clients et moi aussi, tu sais, ça a un effet exponentiel. Tu sais, une habitude de vie, c'est bien, deux, c'est mieux, trois, c'est génial, puis quatre, c'est de faire le plus possible. En n'essayant pas de tout changer en même temps, puis en faisant ce qui est réaliste pour nous autres, j'imagine.
Oui, tout à fait. Puis tu touches à un super bon point. Dans le fond, c'est le processus et la structure qui est importante. C'est le processus de se lancer dans une roue de changement et de le faire de manière soutenue, accompagnée. Et c'est pour ça que toi et moi, on fait du coaching, parce que seul, on est tous pareils. On se dit tout, oh, je suis capable, oui, mais la réalité, c'est qu'il y a très, très peu de gens, moi y inclus, moi-même.
Et moi aussi.
Ouais, tu sais, moi-même j'ai des coachs. Il y a très peu de gens qui vont avoir la motivation, la persévérance pour y arriver vraiment seul, sans accompagnement, puis aller aussi loin qu'ils iraient dans une démarche et un processus structuré.
Et d'accompagnement, parce que le défi c'est pas tellement de changer l'habitude, le défi c'est de persévérer.
Oui.
Moi, pour manger de sucre pendant un mois, j'ai pas de problème avec ça. Pas manger de sucre à l'année longue, ça commence, oh, OK, là, j'ai besoin d'aide. Tu sais, c'est comme ça partout avec les habitudes de vie.
Ben oui, puis après ça, ben pas manger de sucre. Tu sais, les gens vont dire, oh, j'ai déjà des bonnes habitudes. Oui, mais il y a toujours des choses qu'on... Tu sais, la science est tellement vaste, tu le sais, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a toujours un nouvel objectif qu'on peut se mettre si on est dans cette roue de changement-là. Et quand on le fait petit à petit, une étape à la fois, ça se fait dans la douceur. C'est que les gens se disent, ah, ben là, je suis rendu à 250 livres, puis là, je veux perdre 150 livres. Là, c'est sûr que c'est un gros travail. Mais si je le fais petit à petit, au fur et à mesure, ça se fait très, très bien.
Oui, puis faire ça avec de la bienveillance envers soi-même.
Ah oui, ça c'est un gros défi.
gros défi, on a tendance à être dur. Patricia, j'aimerais ça que tu nous parles du... T'es une experte, tu connais beaucoup de choses sur les huiles essentielles. Comment les huiles essentielles peuvent soutenir, aider notre mémoire?
Oui, donc ça, c'est un sujet qui est venu. Moi, j'ai toujours été passionnée par les huiles essentielles, juste comme ça. C'est un sujet qui...
Dans mon
quotidien, j'ai toujours aimé ça, mais j'ai récemment réalisé tout le sens que ça prenait dans ce que je faisais. Et ça part du principe que l'hippocampe, donc c'est la partie une partie du cerveau, dans notre cerveau limbique. Donc pour ceux qui connaissent moins bien, là, le cerveau est séparé en trois sections principales. On a le cerveau ancestral, qu'on entend souvent, le cerveau reptilien, qui est plus proche du tronc. Ben là, on est en audio. Je suis en train de montrer ma tête, mais on est en audio.
Oui, non, ça ne sera pas de grande utilité.
Donc, près de notre cou. Après ça, on a le cerveau limbique, qui est plus le siège des émotions, où on trouve, entre autres, l'hippocampe. L'hippocampe, je ne vais pas rentrer dans un cours d'anatomie aujourd'hui, mais juste pour que vous compreniez bien, l'hippocampe, c'est aussi le siège de la mémoire. C'est une partie du cerveau qui s'atrophie avec l'âge et qui s'atrophie dans les gens qui ont un diagnostic de maladie d'Alzheimer. L'hippocampe, c'est généralement la première partie qui a été atteinte. Et l'hippocampe, c'est également le siège des émotions, mais aussi de l'odorat. Donc, il y a quelques médecins, entre autres, puis on en parle de plus en plus, qui ont constaté, qui ont fait des études qui sont sorties récemment, il y en a sûrement beaucoup plus à venir, qui ont dit, ben si je stimule l'odorat, étant donné que c'est le même siège que la mémoire et la partie du cerveau qui s'atrophie quand je commence à perdre la mémoire. La mémoire, c'est partout dans le cerveau, mais vraiment la mémoire plus épisodique, c'est-à-dire mon récit de vie, là, ce qui s'est passé dans ma vie à moi versus la tienne, c'est entre autres dans l'hippocampe. Donc, la théorie, et qui s'avère de plus en plus démontrée, c'est qu'en stimulant le cerveau par l'odorat, ben, je travaille cette partie-là qui s'atrophie. Et donc, c'est un peu comme dire, je veux faire un marathon, fait que je veux faire de la musculation pour habituer mes jambes à être en forme pour pouvoir courir plus longtemps. Ben, c'est la même chose. Donc, je travaille la partie du cerveau qui est aussi responsable de la mémoire, et ça vient activer cette zone-là, et ça vient indirectement aider la mémoire. Ce qui est important, c'est qu'il y a juste l'odorat qui est interprété dans l'hippocampe. Tout le reste des sens sont interprétés ailleurs dans le cerveau.
Ah, c'est intéressant. Bien, merci de nous expliquer ça. Est-ce qu'il y a des huiles particulières à utiliser pour la mémoire?
Oui, ben il y a des huiles, il y a aussi des protocoles olfactifs, donc c'est plus un processus. Il y a une huile particulièrement intéressante pour la mémoire, mais là ça veut pas dire tous courir aller acheter l'huile. C'est plus ceux qui sont intéressés de vraiment me contacter puis on va regarder ensemble, parce que dans les huiles essentielles, comme toutes les autres, oui, on a l'odorat, mais rappelez-vous les 7 éléments. Donc dans les huiles essentielles, entre autres, il y a peu de réglementation, souvent il y a des agents de remplissage, des métaux lourds et tout ça, donc on veut faire attention à la qualité. Et aussi, donc tout ça pour dire que le romarin est super intéressant, mais c'est un romarin, une composition bien spécifique avec le 1,8 cinéol. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas toutes les formes de romarin qu'on trouve en huile essentielle qui sont intéressantes.
OK. Là tu as parlé d'huile essentielle pour la mémoire. Et dans le cas des femmes en ménopause qui ne dorment pas, qui sont stressées, des petites huiles calmantes comme la lavande. Moi, je sais que j'en ai toujours une bouteille à côté de mon lit, là, de 2-3 gouttes sur laurier. Je pense que ça fait la job.
Bien, tout à fait. Puis, tu sais, on a parlé brièvement tantôt, mais on a dit l'hippocampe, c'est les mémoires, la mémoire et les émotions. La façon la plus rapide d'accéder à calmer nos émotions dans le cerveau, c'est encore là par l'odorat. Donc, c'est ultra efficace. Moi, j'ai tellement appris de choses avec l'odorat qui, pour moi, était un sens un peu méconnu, tu sais, un peu presque inutile, là. Puis, je me rends compte que pas du tout. Puis, d'ailleurs, un des premiers signes, tu sais, souvent, on pense qu'on a des trous de mémoire, c'est ce qu'on observe le plus. Généralement, dans bien des cas, on a déjà d'abord, avant tout, une réduction de l'odorat, mais c'est juste que c'est un phénomène que les gens ne réalisent pas, là. Quand je parle d'odorat, je ne m'en rends pas compte. Les gens qui ont une maladie d'Alzheimer, je pense que 90 % des gens ont des troubles olfactifs avant le diagnostic. Donc, c'est vraiment important. Donc, tout ça pour dire, longue histoire courte, la mémoire par l'odorat, on peut vraiment affecter, comme tu disais, par la lavande et tout ça. Ça peut calmer notre système nerveux, ça peut nous faire changer d'humeur, réduire notre taux de stress juste par le choix des huiles essentielles. Donc, c'est très efficace.
Ah, c'est vraiment super ce que tu nous dis là. J'aimais déjà les huiles essentielles, mais je ne savais pas pourquoi, autre que savoir que c'était bon pour moi et que c'était bon et que ça me faisait du bien. Là, tu es en train de nous expliquer pourquoi ça fait tant de bien. OK. Mettons, là, avant de te laisser partir, mettons le premier petit pas concret qu'on peut faire pour prendre soin de sa mémoire, tu dirais que c'est quoi?
C'est de prendre conscience qu'on peut faire quelque chose et de faire un choix dans le processus, de comprendre que c'est un processus, puis ça va être différent pour tout le monde, parce que on a tous des choses qu'on fait bien, des choses qu'on a plus de défis. Quelqu'un de sédentaire, ça va peut-être être bouger plus. Quelqu'un qui boit pas d'eau, boire plus d'eau. Quelqu'un qui est stressé, ça va être méditer ou intégrer les huiles essentielles dans son quotidien. Donc, ça peut être entraîner son cerveau. Donc, le choix de l'action, elle est moins importante que le fait de se dire, c'est vrai, ma mémoire, c'est important. J'ai l'impression que je cherche plus mes mots qu'avant, ou les titres de films et tout ça. Je veux prendre action, puis de se mettre en action, de faire un petit pas.
C'est super inspirant. Donc, la théorie du plus petit pas possible, mais de le faire.
Oui, vraiment.
OK. Hey, merci beaucoup, Patricia. C'est vraiment super intéressant. Les gens qui ont envie d'en savoir plus sur toi, sur ton travail, où est-ce qu'on te trouve? Je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode.
Je vous invite à aller sur mon site patriciaspans.com, exactement comme mon nom, puis il va y avoir le lien, comme tu disais. J'ai une conférence gratuite qui explique ce que je fais, mais j'organise aussi régulièrement, là, j'ai organisé le grand rassemblement virtuel Mémoire Espoir, où j'ai réuni plusieurs experts, plus de 21 experts en lien avec la mémoire. J'organise régulièrement des défis 7 jours gratuits pour aller plus loin dans tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Donc, le mieux, c'est d'aller sur mon site, s'abonner à mon infolettre, puis à partir de là, vous allez recevoir toutes les informations là, en fonction, en lien de, avec tout ce que je fais. Puis j'ai des capsules, des mercredis mémoire que je fais toutes les semaines, donc il y a en masse de choses sur mon site que vous pouvez
Ben, merci beaucoup, Patricia. Puis n'hésitez pas, les auditrices, à aller chercher de l'aide si vous en avez besoin aussi. Ça fait toute la différence au monde.
Tout à fait.
Hey, merci. À une prochaine, Patricia.
Merci, Eugénie.
J'espère que vous avez apprécié cette rencontre et que ces propos vous ont fait du bien. Si c'est le cas, vous pouvez faire suivre à vos amis ou à vos proches. Et si vous avez des commentaires ou des suggestions d'invités, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Pour ne rien manquer de ce que je mets en ligne, vous pouvez vous abonner à mon blog eugeniefrancoeur.com ou encore vous inscrire sur Spotify, Apple Music ou votre plateforme préférée. Et si vous sentez que vous avez besoin d'une coach santé pour optimiser votre vitalité et votre bien-être et croquer encore plus dans votre vie, vous pouvez me contacter au 514-913-1947 ou encore à eugenie.francoeur@gmail.com. Je vous remercie et à bientôt!